quelqu'un. Question d'embellir le paysage, c'est super agréable. Donc, on poursuit notre série, comme on l'a mentionné, et en fait, on achève tranquillement la série. Il nous reste un dernier message dimanche prochain avec le pasteur Clément. Et j'ai une image pour vous ce matin pour aborder ce passage. On s'en va là, dans le texte qui est crunchy, là, Éphésiens 5 ce matin. J'ai une image pour vous. Vous êtes à la maison, c'est le temps de prendre le repas. Tout le repas est prêt, tout le monde est assis à table. Qui va servir le repas? Il y a toutes sortes de cultures. C'est volontaire si j'ai pris un repas. Je sais que culturellement, ça parle à tout le monde. Donc, qui va servir le repas alors que tout le monde est assis à table? C'est une question qui peut sembler banale, mais lorsque tu lis Éphésiens 5, tu réalises assez vite que Paul est en train de brasser beaucoup de choses, de remettre beaucoup de choses en question. Puis en fait, j'ai envie de dire même d'aller au cœur de l'Évangile. Donc, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu le Fils s'est incarné, il s'est fait homme, meurt sur la croix pour nos péchés, afin qu'on soit pardonné, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et donc, on va plonger même au cœur de l'Évangile en répondant à cette question-là. Paul va renverser des idées reçues. Vraiment intéressant. Et il va prendre cette image qui était très acceptée à l'époque, que l'homme est la tête du foyer, l'homme est le chef du foyer. Voici ce qu'il va dire. Il va dire « La tête est celle qui se donne. Elle sert, elle protège, elle l'aime comme Christ aime l'Église. » On va voir ça ensemble ce matin. Dans une culture où la tête était honorée, n'est-ce pas? C'était la parure, c'est ce qui paraissait lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, mais on est en train de diriger l'entreprise. Paul dit non, dans le royaume, la tête est celle qui se met à genoux. La tête est celle qui se met à genoux. Alors aujourd'hui, on va voir ce renversement-là. On va le voir à travers trois images, cette idée d'un repas à la table. On va voir la relation entre Christ et l'Église, donc on va parler de l'Église. Puis Paul se sert aussi de l'image du corps humain, une tête avec son corps, devenir une seule chair. C'est vraiment un très, très beau texte, c'est bien écrit, c'est vraiment inspiré de Dieu. Et dans le fond, moi, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vous lancer trois invitations à répondre à l'Évangile. Et lorsque vous allez partir ce matin, je vais vous laisser avec la question. Qui sert à table? Et c'est vous qui allez vous faire une tête sur cette question-là. C'est comme ça ici à l'Église de l'Espoir, on arrive avec les Écritures, on ouvre les Écritures et on laisse la parole de Dieu nous parler pour voir ce qui, dans notre culture, dans notre histoire, dans ce qu'on a appris à la maison, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et il y a toujours de bonnes choses, de moins bonnes, et puis on doit apprendre à passer ça à travers le tamis de l'Évangile pour garder vraiment ce qui est bon, vraiment ce qui reflète la personne de Dieu. Et ce matin, j'ai pensé faire quelque chose. On va aller lire un passage de la Bible qui n'est pas Éphésiens 5, mais un passage qui nous donne accès au cœur de Dieu, à la pensée de Dieu, dans un angle un peu différent. On s'en va dans le livre d'Osée. Danny va venir nous lire ce passage où on voit Dieu qui se présente comme un époux, qui aime son épouse qui lui a été infidèle et qui va la poursuivre pour la conquérir et pour l'aimer et pour restaurer leur union, restaurer leur mariage. C'est un passage qui est très, très beau. Et Dieu est en train de nous parler. Comment est-ce qu'il voit l'époux? Puisqu'il se présente lui-même comme un époux dans un mariage très difficile, celui entre Dieu et Israël. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin pour recevoir ta parole. Père, on parle de nos mariages, de nos foyers, de nos maisons. Il n'y a rien de plus formateur dans la vie d'une personne que le foyer dans lequel il est né. On apprend toutes sortes de choses, on apprend toutes sortes de codes. Et notre désir, Seigneur, comme chrétien, c'est de laisser ta parole nous réformer, laisser ta parole nous transformer. Par la puissance de l'Évangile, tu nous appelles à être disponible, un cœur ouvert, un esprit ouvert pour te laisser remettre en question des fois des pratiques culturelles, des images. Et s'il y en a une qui est forte, c'est celle de la relation entre l'homme et la femme. L'histoire de l'humanité est pavée de bons coups et de mauvais coups. Alors, on veut être disponible, on veut t'entendre ce matin, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, viens nous parler de toi. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen.
Alors, bon matin. Le passage de ce matin est dans Osée, au chapitre 2, les versets 16 à 25 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Osée, au chapitre 2 et au verset 16. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'eau rouchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. »
Merci, Danny. C'est vraiment un beau passage. Je suis encore ému juste à écouter la lecture encore de ce passage-là. On voit le cœur de Dieu, on voit sa passion pour un peuple. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, je veux dire Israël, si Israël est l'image d'une épouse, c'est l'image d'une épouse complètement infidèle. Et Dieu est gracieux, et Dieu poursuit, et Dieu aime. Puis Dieu dit, je vais te conduire au désert, puis je vais te parler comme au jour où on s'est rencontrés la première fois, comme lorsque je t'ai conduit dans notre voyage de noces, dans notre lune de miel. C'est un très, très beau passage. Ce portrait d'un Dieu qui cherche, qui parle au cœur, qui restaure, c'est exactement ce que Paul reprend dans un autre langage, dans un autre contexte, dans Éphésiens 5. Paul va dire, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » C'est vraiment intéressant. Je vous laisse avec cette question-là. Je n'y répondrai même pas ce matin. Mais Paul ne dit pas dans ce passage-là à l'épouse d'aimer son mari, mais elle dit au mari d'aimer sa femme. Et ce n'est pas que les femmes, vous ne devez pas aimer votre mari, évidemment. Mais l'accent dans ce passage-là est ailleurs. C'est vraiment intéressant. Le mariage chrétien se comprend à la lumière de cet amour qui poursuit, qui sert, qui se sacrifie constamment. Et c'est ce renversement-là qu'on va explorer ensemble ce matin. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Dans le mariage, l'Évangile renverse nos réflexes. La tête sert, l'amour unit et chacun construit l'autre. Et je crois que c'est ça que Paul est en train de nous enseigner dans Éphésiens 5. On débute ce matin en revenant au plan de Dieu. Donc, pensez à un chantier de construction, un blueprint. Vous avez déjà vu des plans de chantier. J'ai parlé des fois avec des gens qui travaillent dans la construction. Mon beau-père travaillait justement dans le coffrage, dans des gros édifices. J'étais allé voir des gros projets lorsqu'ils ont fait la station de métro sous la place de la cathédrale à Montréal. Puis la petite cathédrale était suspendue dans les airs, littéralement pendant des mois et des mois de travail. Et donc, on veut prendre un peu d'altitude pour voir quel est le plan de Dieu pour le mariage avant de revenir plus directement dans ce passage d'Éphésiens 5, on veut comprendre le plan de Dieu. Donc, premièrement, le plan de Dieu, deux égaux, une seule chair, un projet d'unité. Alors, rappelez-vous le début de la série. Si vous avez manqué le début de la série, c'est fondateur, c'est fondamental. Il faut retourner dans Genèse. On va le faire très brièvement ce matin, mais je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller écouter tous les messages de la série. Dieu n'a pas créé deux adversaires. Quand on regarde les rapports homme-femme à travers l'histoire de l'humanité, ça semble souvent être un rapport de tension, un rapport de compétition, un rapport de domination, un rapport de manipulation. Mais Dieu n'a pas créé deux adversaires, mais il a créé deux alliés complémentaires. C'est ça le plan de Dieu. Même valeur, même dignité, image de Dieu dans tous les deux, hommes et femmes. Genèse 1, 27, Dieu créa à son image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tous deux sont créés à l'image de Dieu, également à l'image de Dieu. Maintenant, regardez bien le mouvement. Je n'avais pas pris le temps de le souligner comme ça dans le premier message. La femme a été tirée de l'homme, c'est ce que le passage nous dit. Et lorsque l'homme a vu la femme, il a trouvé son vis-à-vis. Il a trouvé sa semblable. Enfin, quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un en qui je vais pouvoir me voir, me reconnaître, avec qui je vais pouvoir dialoguer. Donc, la femme est tirée de l'homme. Dieu crée la femme ainsi. L'homme découvre en elle son vis-à-vis. Et Dieu va leur dire, maintenant, tu vas quitter tes parents. Éventuellement, est-ce qu'ils vont avoir des enfants les prochains, n'est-ce pas? Et vous allez vous unir et vous allez devenir une seule chair. C'est intéressant. La femme est tirée de l'homme, ils deviennent deux pour devenir un. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Dieu n'est pas en train de proposer qu'on devienne des adversaires. Dieu n'est pas en train de mettre en place des différences qui vont nous compliquer la vie. Dieu est en train de dire, tu es incomplet, je vais te rendre complet. Et donc, je vais créer quelqu'un qui est ton vis-à-vis, qui est ton égal, qui est ton semblable. Tous deux créés à l'image de Dieu, et vous allez vous réunir ensemble pour devenir une seule chair. Et avant la chute, tout ça se passait bien. Et il n'est pas seulement question de sexualité ici, là. Il est vraiment question de complémentarité, d'être entier parce qu'il était incomplet. Dans toute la création, dans tout l'univers, il n'y a rien d'aussi complémentaire que l'homme et la femme. Il n'y a rien de plus mutuel qu'un époux et une épouse dans toute la création. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous allez me dire, bon, la construction est ratée un peu. Le plan n'a peut-être pas fonctionné. On arrive à la chute, d'accord? Mais c'est le plan de Dieu. Dans toute la création, il n'y a rien de plus complémentaire, d'aussi complémentaire qu'un un époux et une épouse qui s'unissent ensemble pour la vie. Et c'est ça le plan de Dieu. Des responsabilités différentes, mais un objectif identique. Former une seule chair ensemble. Développer la complémentarité dans le cadre de responsabilités parfois différentes. Voyez-vous, l'unité du mariage annonçait déjà l'Église. Quand vous y pensez, là, et c'est là qu'on s'en va là, dans Éphésiens 5, cette unité-là, cette vision où Dieu crée la femme et ensuite de ça, ils vont devenir une seule chair, ça annonçait déjà la relation que Christ a avec son Église. Ce matin, je ne vais pas le développer, mais rappelez-vous que pour devenir chrétien, tu dois naître de nouveau et donc tu dois recevoir en toi l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient vivre en toi, c'est ce qui fait que tu expérimentes la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, tu es en communion avec Dieu pour l'éternité, puisqu'il a déposé en toi son esprit. Quand tu parles de s'unir à quelqu'un, là, si mon âme pouvait être donnée à mon épouse, si mon esprit pouvait être donné à mon épouse, on ne serait pas plus unis que ça. Christ est plus uni à son Église qu'aucun couple ne pourra jamais l'être. Et donc, cette unité à l'intérieur du mariage est vraiment une superbe image qui parle de l'unité entre Christ et l'Église. Vraiment une superbe image. Et c'est ce que Paul développe dans Éphésiens 5. Il va dire au verset 32, « Ce mystère est grand. » Puis là, il clarifie, il dit, « Je parle de Christ et de l'Église. » Dans le contexte du mariage, il dit, « Vos mariages sont là pour refléter Christ, comme vous devez vous inspirer de l'Évangile de Jésus-Christ pour vivre vos mariages. » Mais à la fin de ça, il dit, « Ce mystère est grand, cette union parfaite entre Christ et l'Église. Quel mystère incroyable! Que Dieu parfait, Dieu le Fils parfait, vienne s'unir à nous pour l'éternité. Dans une certaine mesure, d'un certain sens, que je participe à la divinité. Je ne suis pas Dieu, là. Je reste 100% humain, chaque chrétien 100% humain, 100% et pourtant uni à la divinité. Et ça, pour l'éternité. Paul dit, c'est un mystère, j'ai pas les mots pour décrire ça, c'est trop beau, c'est trop grand. Nos mariages chrétiens sont appelés à refléter la relation intime entre Jésus-Christ et son Église. On parle du plan de Dieu. Plusieurs d'entre vous ne vivez pas ça, mais pas du tout. Certains d'entre vous ont traversé des divorces, vous êtes seuls, vous dites, mais beau plan, merci Seigneur. Restons dans le plan, d'accord, pour l'instant? C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu conçoit pour le mariage. Et si tu es actuellement marié, c'est ça que tu es appelé à poursuivre si tu es chrétien. Nos mariages chrétiens sont appelés à refléter la relation intime entre Jésus-Christ et son Église. C'est un privilège incroyable. C'est un privilège comme c'est un privilège d'annoncer l'Évangile. Juste de partager l'Évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est un privilège incroyable, là. Je veux dire, écoute, ce message-là a la puissance de transformer l'éternité de la personne à qui tu annonces l'Évangile. Est-ce qu'il y a un plus grand privilège que d'annoncer l'Évangile à quelqu'un? Potentiellement, si la personne accepte l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, toute son éternité vient de se transformer. Son présent, mais son éternité aussi. Bien, imaginez de pouvoir incarner ça devant nos enfants, devant nos voisins, devant des amis, devant l'Église. C'est un privilège absolument extraordinaire. Voyez-vous, le mariage n'est pas une guerre de territoire, c'est une mission commune d'unité. Ce n'est pas gagné d'avance parce que nous péchons. Mais le mariage n'est pas une guerre de territoire. C'est une mission commune d'unité. Ainsi, le plan de Dieu, on commence avec le blueprint, le plan de Dieu pour le mariage, c'est deux égaux, une seule chair, un projet d'unité. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est très, très beau. Maintenant, Adam et Ève ont péché. On a beaucoup fait référence à la chute, parce que la réalité de nos mariages, de nos expériences dans le mariage, se font à la lumière de la chute dans le péché d'Adam et Ève, qui est venu corrompre tous nos rapports, premièrement avec Dieu, qui est venu nous corrompre intérieurement. Même lorsqu'on aspire à faire des choses extraordinaires, souvent les motifs sont doubles, hein? Et qui est venu surtout corrompre nos relations, et particulièrement dans les rapports hommes-femmes. Et là, on a vu s'établir des rapports de domination, de manipulation, de compétition, au lieu d'être dans la complicité, dans la mutualité. Au lieu d'être deux partenaires, on devient deux adversaires. Alors, avouons-le, la chute d'Adam et Ève dans le péché est venue compliquer terriblement nos mariages. Il n'y a pas de mariage maintenant qui sont sans difficulté, c'est pas vrai. Et ça a amené aussi le développement dans toutes les cultures de toutes sortes de modèles. La chute d'Adam et Ève, en déformant le plan de Dieu, a produit toutes sortes de modèles. Des modèles patriarcaux super dominants, des modèles matriarcales, toutes sortes d'autres modèles qui sont là et qui ont besoin d'être, à quelque part, révisés, renversés par l'Évangile pour arriver vraiment au modèle biblique, pour revenir au plan de Dieu. Et c'est vous qui connaissez votre histoire. C'est vous qui connaissez votre arrière-plan, la famille où vous avez été élevé. Et je vais dire quelque chose qui va provoquer. Si vous avez été élevé dans une bonne famille chrétienne, j'aime pas tellement ça, cette expression-là, là, mais une bonne famille chrétienne, tu sais, comme s'il y avait des bons chrétiens. Si vous avez été élevé dans une famille chrétienne qui avait vraiment des principes bibliques, probablement qu'il y a énormément de bonnes choses à retenir. Maintenant, il n'y en a aucune qui est parfaite, c'est pas vrai. Il n'y en a aucune qui n'a pas certains travers, certaines choses qui demandent à être révisées, à être revues par l'Évangile. Esther et moi, ça fait 33 ans qu'on est mariés, on est encore en train constamment de revoir, de réviser notre relation à la lumière de l'Évangile. Et ça doit être ainsi. Donc, le plan de Dieu, deux égaux, une seule chair, une équipe, une unité. Deuxièmement, il y a un renversement qui vient de l'Évangile. L'Évangile vient bouleverser des choses. Et culturellement, l'Évangile a bouleversé à l'époque de Paul. Elle bouleverse encore, elle renverse encore. Le renversement de l'Évangile, deuxième élément, la tête conduit en servant. Voyez-vous, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, il est venu renverser toutes sortes de choses. Il est venu renverser notre vision de Dieu. Déjà, lorsque Jésus priait Dieu, il priait avec beaucoup d'intimité, hein? Père, papa. Là, les spécialistes, les théologiens de l'époque étaient là, mais il parle à Dieu! Oui, bien sûr, c'est un père, mais tu ne vas pas commencer à l'appeler papa. Et pourtant, Jésus était toujours dans l'intimité avec son père. Il vient bouleverser notre vision de Dieu. Et lui-même, étant Dieu le Fils, dans son rapport avec les gens faibles, les gens rejetés, les exclus de la société, il vient renverser notre manière de voir le regard de Dieu pour les exclus de la société. Donc, l'Évangile vient La bonne nouvelle de Jésus-Christ vient renverser notre vision de Dieu, notre vision du Père, notre vision de l'amour. Lorsque Dieu le Fils vient mourir sur la croix pour nous pécheurs, hein? Là, tu découvres c'est quoi l'amour. Comme tu ne l'as jamais vécu, comme tu ne l'as jamais expérimenté. Je veux dire, mes parents ne sont pas morts sur une croix pour moi. Ils se sont donnés. Ils se sont donnés énormément, mais pas jusqu'à la croix. Et là, il vient renverser notre vision de l'amour. Il vient renverser notre vision du leadership. Donc, ça m'amène à la deuxième image. J'avais une image avec un repas. On va y revenir à celle-là. Mais la deuxième image, c'est l'image du corps humain. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Église, du rapport entre Christ et l'Église. La troisième image, c'est l'image du corps humain. Paul dit une évidence pour l'époque. D'accord? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Personne n'aurait questionné ça à l'époque. Personne. Et on va voir ensemble ce que Paul fait avec cette déclaration-là. Là, je vais faire un petit peu de grec ce matin, d'accord? Le mot « chef » qui est là, en grec, c'est « kephalé ». Son sens propre, c'est la tête. C'est pour ça qu'après ça, on va passer à l'image du corps. Et donc là, si on pense à la tête, là, vous vous dites « OK, attends un peu, Yannick. » L'homme, et l'époux est le chef de sa femme. Là, tu es en train de me dire qu'il est la tête de la femme, pouce, mais pouce égal. Ça finit où? Là, j'entends des sœurs qui me disent « Oui, mais la femme est le cou. » Donc, elle dirige la tête, n'est-ce pas? On lit ceci, « Le mari est le chef de la femme » et on a toutes sortes d'images qui nous viennent à l'esprit, qui nous viennent en tête. On a des images, encore une fois, de patriarcat parce qu'on voit la tête comme la place du patron, hein, celui qui est à la tête d'une entreprise. Mais dans le stationnement, tu as une idée peut-être où est-ce qu'il stationne aussi. Tu regardes les voitures et tu dis, « je pense que lui n'est pas concierge. » Celui qui est à la tête du peloton. C'est l'élite, hein, la tête du peloton, ou le peloton de tête, puis là, la tête du peloton de tête, c'est l'élite. Évidemment, lorsqu'on pense à la tête, on pense à l'honneur, ce qui est mis en tête d'un journal. Hey, c'est les grandes nouvelles. Bon, des fois, on ne fait pas la première page pour les bonnes raisons, mais tu sais, si c'est pour une bonne raison, tu es en première page d'un journal. Wow! Et donc, l'image qu'on a, c'est ce qui est honoré. C'est vraiment intéressant, je pourrais vous citer plusieurs philosophes de l'époque qui prennent cette image pour décrire, par exemple, l'empereur comme la tête et l'empire comme son corps. Et donc, l'image qui nous vient, c'est une image qui est vraiment en honneur, n'est-ce pas? C'est la tête qui attire l'attention, c'est la tête qui est belle ou pas. Et si elle est belle, waouh, tout est beau, tout est merveilleux. Quand on regarde quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le regard, premièrement. On regarde la personne, on regarde son visage. Si son visage est symétrique, hein, vous avez déjà lu des études là-dessus, si son visage est super symétrique, en fait, si son visage est comme le plus commun des plus beaux, ben là, on dit « waouh, c'est la tête ». Puis là, on arrive dans le royaume de Dieu. Et l'Évangile nous dit « dans le royaume, être en tête signifie que tu es le premier à te sacrifier ». Être en tête signifie que tu es le premier à te sacrifier. Paul vient renverser complètement la vision qu'on a de ce qu'est la tête. Éphésiens 5, 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, Paul prend le temps de dire aux époux, « Vous devez aimer votre épouse. » Maintenant, il va qualifier comment est-ce que tu dois aimer ton épouse. Parce que si je te dis que tu es la tête, on vient de tout régler. Tu rentres à la maison, tu t'assois dans le sofa, tu te fais servir. Mais voyez-vous, à la lumière de l'Évangile, être en position de leadership n'est jamais l'opportunité de se faire servir, c'est toujours l'opportunité de servir. À la lumière de l'Évangile, être en leadership, c'est jamais l'opportunité de se servir, mais l'opportunité de servir. Et donc, l'image d'autorité dans les Écritures, l'image de l'homme dans les Écritures qui va parfois être plus fort physiquement, qui va justement pourrait dominer avec ça, la force que Dieu, physique, la force que Dieu a donnée à des hommes, n'est pas là pour dominer, elle est là pour protéger, elle est là pour garder, Elle est là pour se sacrifier. C'est clair à travers toutes les Écritures. C'est jamais aussi clair qu'à travers l'Évangile. C'est clair dans tout l'Ancien Testament, même si on a fait n'importe quoi avec plein de passages de l'Ancien Testament. Mais lorsque j'arrive ici dans Éphésiens 5, ça ne pourra jamais être plus clair que ça. Tu es la tête, tu es le premier à te sacrifier. À tout le moins, si tu as compris ce que Jésus a fait, peut-être que tu n'as pas compris l'Évangile, tu te sers de la religion pour dominer. Parce que la religion, admettons-le, le christianisme aussi, a servi à dominer. Mais c'est un christianisme qui n'est pas chrétien. Si la Bible te permet de dominer, te permet de rentrer dans une espèce de patriarcat où tu es dominateur, tu n'es juste pas chrétien, bonhomme. Tu n'as pas compris l'Évangile. C'est jamais aussi clair qu'ici, à travers ce que Jésus a fait, ce que Paul nous rapporte ici. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Paul nous dit, la tête n'est pas là pour penser à elle-même, mais pour se préoccuper du corps. Voyez-vous, si je prends l'image de la tête et du corps, bien, je peux imaginer une tête qui est juste imbue d'elle-même, hein, et qui s'en va. Imaginez que je marche dans un sentier boisé, puis je viens de me faire coiffer, je ne sais pas trop quoi, on m'a greffé des cheveux, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis là, tout d'un coup, là, tu sais, je suis vraiment fier de mon apparence et je ne regarde pas où je m'en vais. Non, la tête n'est pas là pour ça. La tête n'est pas là pour se pavaner. La tête est là pour prendre soin du corps. Et si vous vous êtes blessé physiquement dernièrement, hier, j'étais en train de marcher, puis oh, je me suis tiré quelque chose dans le pied. Ma tête pense juste à mon pied depuis ce temps-là. Mon pied a toute mon attention. Chaque fois qu'il se fait entendre, il a toute mon attention. Paul nous dit que la tête est là pour servir, elle est là pour prendre soin. Paul nous dit qu'être chef, c'est se sacrifier, c'est servir comme Christ a servi et s'est donné. Le mari ne réclame pas des privilèges parce qu'il a un rôle de leadership dans le foyer. Il descend aider les personnes et leur offrir des privilèges. C'est ce que je vois dans le passage ici. Il prend l'initiative de la réconciliation comme on l'a vu dans Osée. De pardon, de protection, de direction humble. Le mari sert sa femme comme son propre corps. Alors voyez-vous ce que Paul fait dans le passage? Il commence avec la relation entre Christ et l'Église, puis il va revenir dans Genèse 2.24. Il va citer Genèse 2.24. L'homme quittera son père et sa mère, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour aller vers son épouse. Ça parle de quelque chose, l'initiative d'aller fonder ce foyer-là. Je vais aller vers mon épouse. Mais il revient là en parlant du corps. L'Église est le corps de Christ. Puis là, il revient à cette idée. OK, maintenant complétons ça, les amis. Tu vas quitter ton père et ta mère pour t'unir à ta femme. Vous allez devenir une seule chair. Mais si vous êtes une seule chair, qu'est-ce que Paul nous dit? Tu prends soin de ton corps. Mon pied a toute mon attention, je vous le dis, depuis hier. Je prends soin de mon pied depuis hier. L'autre, je ne m'en occupe pas. Je vous dis, il se blessera s'il veut que je m'en occupe. Vous voyez la boucle? Paul revient à cette idée qu'on devient une seule chair. Mais là, Paul, il dit sérieusement, les gars, si vous êtes une seule chair, qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Je sais, il y en a qui vont me dire, « Ah, moi, je suis dur avec mon corps. » Ouais, jusqu'à temps que ça fasse assez mal. Viens, je vais être dur avec ton corps. On va voir si tu vas laisser ta main là. Dur avec ton corps. Mais oui. Non, t'en prends soin. T'en prends soin et tu veux qu'il fonctionne. Et donc, Paul revient à cette image-là de soin pour le corps. Quand une partie de mon corps ne va pas bien, je peux vous dire, toute ma tête est occupée par ça. Je reviens là à ce moment-là. Jésus, dans Jean 13, c'est vraiment intéressant ce que Jésus a fait dans Jean 13 lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Parce que c'est beau que Paul nous dise qu'on doit livrer notre vie comme Christ s'est livré pour l'Église, mais Paul n'est pas littéralement, au cas où il y aurait un cinglé ici qui penserait ça, Paul n'est pas littéralement en train de dire d'aller vous faire crucifier les boys. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire de donner vraiment ta vie. Tu sais, quand tu as l'impression que ça coûte cher, puis pourquoi c'est encore moi? Bah, parce que la croix. Ouais, mais je suis tanné, je suis fatigué. Ben, à la croix. Mais en même temps, tu sais, c'est théorique parce que moi, je n'irai pas me faire crucifier pour ma femme. Ça ne donnerait rien, ça serait bête. Je ne peux pas la sauver. Jésus l'a déjà fait. Dieu merci. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est faire ce que Jésus a fait ici. Dans Jean 13, 14, Paul a pris le temps de laver les pieds de ses disciples. OK, les gars, vous ne pourrez pas aller vous faire crucifier, là, mais vous pouvez littéralement vous comporter comme le serviteur de la maison. Parce que c'est le travail du serviteur de faire ça. Jean 13, 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et donc, lorsqu'on parle d'un leader-serviteur, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose d'éminemment pratique. Ça va paraître dans mon style. Ça va paraître dans ma manière d'agir. Je le répète encore une fois, le leadership dans les Écritures n'est jamais un privilège pour se faire servir ou pour se servir. Non, c'est le privilège de pouvoir servir. C'est littéralement ça. Parce que Christ est notre exemple. Parce que comme Dieu, je veux aimer mon épouse, alors que Dieu nous montre son amour pour Israël. J'ai la responsabilité d'initier la réconciliation. Il n'y a comme pas d'espace pour une psychologie qui dit « les hommes ne sont pas bons pour communiquer ». C'est ta job, bonhomme. C'est à toi de l'initier. Tu n'es pas très bon avec la communication, apprends, fais quelque chose. Parce que tu vas devoir le faire, tu dois aimer ton épouse. Avec l'Évangile, la notion de chef signifie « opportunité de servir », non de se servir ou d'être servi. Et donc, ça va demander aux hommes de devenir des serviteurs dans leur foyer, de prendre l'initiative du service, de la réconciliation, d'aimer activement. Ton leadership demande que tu sois l'initiateur de ça. Et il n'y a pas d'humiliation qui devrait t'empêcher de prendre l'initiative de la réconciliation. Parce que Christ a subi la plus grande humiliation possible. C'est la mort qui était réservée aux pires criminels, la crucifixion. Imaginez Dieu le Fils qui est crucifié. C'est encore plus humiliant que si moi je l'étais. Et les hommes vont devoir devenir des serviteurs. Les couples vont devoir revoir leurs habitudes et repérer là où l'orgueil, la fierté ou les attentes culturelles ont remplacé l'Évangile. Ce matin, je vais vous donner des principes et je ne serai pas trop concret parce que chaque dynamique de couple, chaque culture doit trouver avec l'Évangile comment on revoit ça. C'est à vous de le voir. Les dynamiques de couple impliquent des forces et des faiblesses naturelles à l'un ou l'autre qui vont dicter à quelque part cette complicité-là. Mon épouse est non seulement différente parce qu'elle est une femme, mais elle est différente parce que c'est une autre personne avec d'autres forces et d'autres faiblesses. Et donc, ça va se traduire un peu différemment chez moi que chez toi, que tu sois né au Québec, en Égypte, en Afrique, en Ukraine. Même si vous étiez deux Ukrainiens qui venaient de la même famille, vos foyers vont être un peu différents parce qu'il y a ça aussi. Et donc, c'est à vous de trouver ça. Maintenant, un mot pour les célibataires. Les célibataires qui ont hérité d'une mauvaise vision du mariage, bien, si tu es mon frère, ma soeur, tu as un rôle à jouer dans ma vie à moi. Et donc, tu dois, toi, réviser ta vision du mariage parce que vous êtes invités à parler dans nos mariages. Très tôt dans mon ministère pastoral, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui se règlent dans une dynamique de couple lorsqu'on enlève la couverte un peu, là, puis on donne accès au couple. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saines parce qu'elles sont dans le secret d'une maison. Bien, mon frère, ma soeur, si tu es célibataire, approche-toi des couples et parle dans leur mariage. Il y a des choses que toi, tu vois qu'ils ne voient pas. Et tu as le droit de le faire. Les Écritures sont claires. Juste avant, Paul, dans Éphésiens, est en train de dire « vous soumettant les uns aux autres ». On est une famille ici. Et j'ai besoin de ton regard sur moi. Parce qu'il y a des choses que je ne vois pas. Et peut-être que mon épouse essaie de me le dire. Peut-être que moi, j'essaie de dire des choses à mon épouse puis elle a besoin qu'une sœur lui dise. Parce qu'elle ne l'entend pas à ce moment-là. On a vu le plan, on a vu le renversement de l'Évangile, et on termine avec la réponse de l'épouse. Honneur volontaire et complicité active. Voyez-vous, la notion de soumission chrétienne n'est pas celle qu'on voit dans le monde. Par exemple, pour devenir chrétien, tu vas devoir venir soumettre ta vie à Dieu. Et c'est peut-être ça qui t'empêche de devenir chrétien. Tu dis, non, moi, je ne serai jamais soumis à personne. Bien sûr, le jour de ta mort, tu vas être soumis à Dieu qui va décider du jour de ta mort. Tu es soumis que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu peux le faire volontairement. Et c'est ça, devenir chrétien. C'est volontairement, je viens remettre ma vie à Dieu, puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour être pardonné de mes péchés, pour apprendre à marcher dans tes voies. J'ai besoin de toi. Je viens me soumettre. Je veux suivre mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est volontaire. On annonce l'Évangile, mais je ne peux pas forcer personne. Je ne peux pas soumettre quelqu'un à l'Évangile. Ça serait une perversion du christianisme. Ça s'est déjà essayé, ça ne marche pas. La soumission dans les Écritures, venant d'un être humain, c'est une décision volontaire d'honorer. C'est littéralement ça. Ce n'est pas une perte de voix. Le verbe, encore une fois, j'ai dit qu'on a fait un peu de grec ce matin, le verbe qui est là, hypotasso, ce qui signifie, c'est décider de soutenir celui qui se sacrifie pour toi. Parce qu'ailleurs, il va parler du rapport entre les parents et les enfants. Et là, c'est obéir. Ce n'est pas se soumettre. C'est obéir. Il n'y a pas de conversation. Oui, tu perds une voix. Oui, mon enfant de 5 ans, quand il dit « Je ne mangerai pas ce repas, très bien, tu le mangeras demain matin. » On se reparle demain. « Je ne le mange pas demain matin. » Très bien, tu le mangeras demain midi. À un moment donné, tu vas avoir assez faim, tu vas manger. Il n'y a pas de négociation, là. Tu as perdu ta voix. Parce que c'est moi l'adulte dans la pièce, et je vais t'apprendre à manger ce qu'on met dans ton assiette. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Et c'est pour ça que Paul va prendre le temps de faire la nuance et de parler d'honneur. Paul est en train de parler de quelque chose qui n'est pas passif. Comme on l'a dit, le rapport entre les hommes et les femmes a été perverti par la chute, par le péché, puis on est entré dans des rapports de domination, de manipulation, de méfiance, de compétition. Mais il n'est pas question de passivité ici. Mon épouse est mon égale devant Dieu, elle est aussi intelligente que moi. Et pourtant, j'ai la responsabilité de l'initiative du leadership. La responsabilité m'incombe de la poursuivre et de l'aimer. Et sa responsabilité est de chercher à m'honorer dans ça. Parce que je ne ferai pas toujours bien. Ça va lui demander pas mal de grâce. L'épouse honore un homme qui l'honore comme co-héritière du royaume. Pierre nous dit dans 1 Pierre 3,7, « Marie, honorez vos femmes comme co-héritières de la grâce de la vie. » Voyez-vous, la femme n'est pas sous l'homme, elle est à côté de l'homme. Héritière avec lui, partenaire du même Christ, du même Sauveur. Et elle va chercher à honorer son leadership. Et en ceci, on va montrer la beauté de l'Évangile à nos voisins, à nos amis. Quand je dis à des gens bêtement dans un magasin que mon épouse et moi, on est mariés depuis 33 ans et on est encore amoureux, ben les gens pourraient penser que c'était un mariage facile. Non. Mais l'Évangile est là dans notre couple. L'Évangile est là dans notre couple. Et donc, on poursuit activement cette réforme intérieure de notre dynamique de couple avec l'Évangile constamment, depuis 33 ans. C'est merveilleux. Ce n'est pas parfait. C'est merveilleux. Et on donne l'opportunité à Dieu, volontairement ou involontairement, chaque semaine, si ce n'est pas chaque jour, on lui donne l'opportunité de ramener l'Évangile dans notre couple. Parce qu'on a besoin de cette grâce-là constamment. Si c'était juste de nous, je ne pense pas que je l'ai déjà dit du haut de la chair, mais je le partage avec des gens. Avec mon arrière-plan, quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, ça va être assez terrible. Les filles, vous allez savoir que vous n'auriez jamais voulu être avec un homme comme moi. J'ai dit à Esther, je vais te promettre fidélité le jour de notre mariage, mais je ne pense pas que je vais y arriver. En fait, je ne peux pas croire que je vais être fidèle à une femme pour toute ma vie. Ça, c'est mon arrière-plan, d'accord? Et par la grâce de Dieu, on est ensemble, on est amoureux, fidèles l'un à l'autre. C'est la puissance de l'Évangile, c'est la grâce de Dieu. Donc, je termine avec quelques questions pour vous. Parce que c'est votre responsabilité à vous de trouver comment l'Évangile s'applique dans votre couple. D'où vient ta culture du mariage? D'où vient ta vision de la dynamique entre un homme et une femme? Est-ce que ça vient de l'Évangile? Est-ce que tes parents ont reflété quelque chose qui répond à la question d'Éphésiens 5? Nos mariages sont censés constamment être en train de répondre à la question que je vous posais tout à l'heure. Vous êtes assis à table, qui sert? La réponse est dans le texte. Qu'est-ce que tu fais quand ça chauffe? Comme époux, est-ce que tu prends l'initiative d'apaiser? Est-ce que tu es éclairé par l'Évangile? Comme épouse, est-ce que tu choisis d'honorer ou tu choisis la méfiance, le retrait? Les hommes, vous êtes appelés à devenir les premiers serviteurs de votre foyer, à prendre l'initiative de la réconciliation, de l'amour, aimer activement vous sacrifier. Les femmes, vous êtes appelées à honorer volontairement, à encourager, à supporter un mari qui cherche à imiter Christ. Tout ça, c'est dans le contexte d'un foyer chrétien. Il y aura encore beaucoup à dire, d'accord? Les couples, vous êtes appelés à revoir vos habitudes, à repérer là où l'orgueil, la fierté, où les attentes culturelles ont remplacé l'Évangile, puis ça ramène des rapports de manipulation, de méfiance, de domination. Vous êtes appelés à être attentifs à ça et à revoir votre relation à la lumière de l'Évangile. Je l'ai dit aux célibataires, je le répète, vous êtes appelés à parler dans nos mariages, les amis. Vous êtes appelés à revoir votre vision du mariage s'il est malsain, s'il ne vient pas de l'Évangile. Vous êtes appelés à le revoir parce que peut-être que Dieu vous appelle à vous marier, mais Dieu vous appelle certainement à parler dans nos mariages. Autrement, on n'est pas une église en santé. Si toi, tu n'as pas le droit de parler dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je reviens avec ma question parce que la réponse n'est pas si simple, d'accord? Donc, vous êtes assis à table, à la maison, le repas est prêt, tout le monde est fatigué. Qui doit servir? Est-ce que ce serait le mari qui est le serviteur du foyer? Le premier serviteur du foyer. Je me souviens d'un moment où on avait des gens qui arrivaient au pays et j'étais en train de servir dans la cuisine avec mon épouse, puis ça ricanait dans la salle à manger. Les gens que ça concerne vont se reconnaître. Puis là, je dis, mais pourquoi vous riez? J'essaie de lui expliquer ce que tu fais dans la cuisine avec ta femme. Donc, la réponse est peut-être simple, mais en même temps, hein, Dieu dit à l'épouse qu'elle doit honorer son mari. Est-ce qu'elle ne peut pas l'honorer en servant? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Évangile est censé révolutionner vos rapports et vous allez être en compétition de service mutuel. Vous allez rivaliser d'efforts pour refléter Christ dans la vie l'un de l'autre. Littéralement. Et l'Église veut aimer Christ comme Christ nous a aimés. Mais je ne pourrais jamais aimer Christ comme il m'a aimé. Et pourtant, est-ce qu'il y a une mesure, est-ce qu'il y a un moment où je vais dire, mais je l'ai assez aimé, mais je l'ai assez honoré? Mais non, je vais donner tout de moi, puis ça sera juste raisonnable. Et Christ a donné tout de lui. Donc, je vous laisse avec la question. Moi, je pense que c'est une belle question ce midi à table, ce soir à la maison. Qui devrait servir? Ah, peut-être c'est les enfants, finalement. Peut-être que vous réglerez ça comme ça pour cette fois-ci. J'espère que Dieu vous parle à travers cette série-là. J'espère que Dieu vous parle de ce que c'est un homme, de ce que c'est une femme, de ce que la Bible nous dit sur un sujet qui est contentieux, qui est difficile dans la culture, qui est important, parce qu'on est des hommes et des femmes. Et s'il y a une place où, imparfaitement, mais constamment, on doit voir une différence dans les rapports hommes-femmes, c'est dans l'Église. Non seulement à l'intérieur de nos mariages, mais dans nos rapports entre frères et sœurs. Cet endroit-ci est une place où tout doit changer dans nos rapports les uns avec les autres. Et on doit vraiment être une famille où on prend soin les uns des autres. Et on va se considérer comme des égaux. Un endroit où la compétition malsaine, le mépris qui entre les deux sexes, tellement souvent, c'est inacceptable dans l'Église de Christ. On est différents, mais c'est merveilleux. Ben oui, Mon épouse la trouve complexe parfois. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et si Dieu vous parle, ne laissez pas ça partir. On se réunit le dimanche matin pour adorer Dieu et pour laisser Dieu transformer notre être profondément. Ne laissez pas partir ce message-là, juste l'oublier. Demandez à Dieu de venir vous transformer. Prenez action. Partagez ensemble, discutez ensemble. Et comment ça va s'incarner, ces principes-là? C'est à vous de trouver la réponse. Et après, laissez l'Église parler dans votre vie. Laissez l'Église réagir à la manière que vous incarnez ça comme couple, par exemple. Et Dieu va faire des belles choses dans notre Église. Et les gens qui vont nous côtoyer de l'extérieur vont dire, « Il me semble que ça, c'est équilibré. » Les réactions qu'on voit dans la culture constamment, d'un côté ou l'autre, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu renverses notre vision de Dieu, notre vision de ton Père. Tu renverses notre vision des exclus de la société, notre vision de la Bible, de la loi, Seigneur. Tu renverses notre vision de l'être humain. Tu renverses notre vision de l'homme et de la femme. Tu renverses notre vision du mariage. Et ton plan, Père, est parfait. Ton plan reflète même tout ce qu'on voit dans la nature, mais de manière parfaite, parce que c'est toi qui l'as créé. Seigneur, on veut confesser que c'est souvent difficile pour nous de vraiment incarner ça. Mais on ne veut pas regarder à nous-mêmes. On veut regarder à toi, Jésus-Christ. Toi qui t'es donné sur la croix pour nos péchés. Toi qui nous as aimés. Toi qui nous accordes ce privilège de marcher jour après jour avec toi par la grâce, en s'appuyant sur ton pardon et ton amour inconditionnel, Seigneur. Et donc, je te prie pour nos couples, pour nos foyers, pour nos maisons, pour ceux qui se préparent à se marier, pour ceux qui le seront un jour, pour nos rapports entre les hommes et les femmes dans l'Église, entre frères et sœurs. Seigneur, viens faire une œuvre belle et profonde et riche. Notre société languit, Seigneur, pour voir des relations amoureuses qui te reflètent vraiment. Viens, Seigneur, opérer des miracles au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.